Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Pour débuter cette nouvelle année, j'avais envie de rendre hommage au Festival de Woodstock et aux artistes qui l'ont animé, en vous souhaitant ainsi tous mes meilleurs voeux de paix, de santé, de bonheur, mais aussi de prospérité. Et tout ça, tout en parlant de ce qui restera le plus grand festival musical de l'histoire. Avec lui, le monde découvre ces hippies, venus souvent par hasard, et qui vont transformer un banal festival d'été en une grande messe de la musique, dans ce qui ressemblait plus à un camp de vacances débridé qu'à autre chose. Ce festival est né grâce à quatre hommes, qui se rencontrent suite à une annonce.
D'abord, deux investisseurs recherchant à placer leur argent, John Roberts et Joel Rosenman, et cette annonce est lue par Michael Lang, un hippie de 24 ans, déjà organisateur du Miami Pop Festival en 1968 et qui avait vu 100 000 spectateurs présents. Il est accompagné de Artie Kornfeld, 26 ans, qui est patron du label de musique Capitol Records. Leur idée originelle, c'est de monter un studio dans la ville de Woodstock. Et puis l'idée évolue. Michael Lang et Artie Kornfeld contactent des artistes et tout se met rapidement en place. La ville de Woodstock prend peur et refuse de les accueillir. Mais les deux organisateurs finissent par obtenir, pour $50, le terrain d'un fermier de Bethel, situé à 80 km de Woodstock et 150 km au nord de New York City. Et puis tout explose. Le jour J, 500 000 personnes débarquent et il faut les nourrir, les soigner, les loger, parfois les faire accoucher, il y a eu deux naissances, et malheureusement aussi deux overdoses mortelles. Ce seront donc 500 000 personnes qui assisteront, tant bien que mal, à un festival finalement gratuit et tout simplement incroyable, avec un son excellent sur toute la zone, et ce grâce à Bill Henley, l'ingénieur du son. Un regret pour les artistes qui ont refusé de participer, je pense à Led Zeppelin, aux Doors, Morrison à la même époque était en procès, les Beatles, parce que Lennon voulait que le groupe de Yoko Ono joue avec eux et pas les organisateurs, Bob Dylan, dont le fils était malade, et ensuite Frank Zappa, Free, The Moody Blues, ou encore Jethro Tull. Pourtant l'affiche a de quoi faire frémir de plaisir. Tous ceux qui ont joué à Woodstock ont reçu définitivement le label Woodstock qui devait transformer leur vie. Commence officiellement le vendredi 15 août à 17h07 avec l'apparition sur scène de Richie Evans avec son style guitaristique ultra rythmé et sa voix emplie de soul. C'est une entrée en matière parfaite, le public attend déjà depuis plusieurs heures et l'apparition de ce grand barbu à la voix chaude a sûrement réconforté tous ces gens avides de musique cool. Sa prestation de Freedom, qui deviendra un tube international, devint un des nombreux hymnes nés pendant le festival. Vous savez sûrement que le mouvement hippie était très proche des spiritualités et des traditions du bouddhisme ou de l'hindouisme, et une des grandes figures religieuses indiennes fut conviée, Swami Satchidananda, ouvrir officiellement le festival, et pour dispenser aussi quelques enseignements et conseils aux spectateurs. suivirent les sets de Sweetwater, un groupe de rock originaire de Los Angeles, The Incredible String Band, un groupe de folk psychédélique britannique, originaire de Glasgow, en Écosse, Bert Sommers, qui fait un peu de folk hippie, Tim Hardin, et puis celui de Ravi Shankar, qui fit planer les spectateurs avec ses sonorités indiennes. Et ce, malgré la pluie qui avait commencé à tomber et qui rendait le terrain carrément invivable. Bref, c'est Richie Evans qui devait lancer le show, et il le fit très bien, jugé plutôt avec l'excellent Freedom. Ah oui, une précision, j'ai choisi de vous passer les versions studio des chansons présentées, afin que vous ayez une meilleure idée de ce qui était en vogue à l'époque, avant Woodstock. C'était Freedom par Rich Evans sur Oxy Web Radio. I'll put flowers at your feet. Puis c'est au tour de la chanteuse folk Mélanie qui entame la deuxième partie, c'est-à-dire en fait le début de soirée. Ensuite, John Baez qui vint lui succéder après la prestation d'Arlo Guthrie, qui était le fils de Woody Guthrie, un chanteur célèbre aux États-Unis, chanteur de folk, qui restera célèbre pour Coming to Los Angeles, qui eut un réel succès ce jour-là. La première journée est incontestablement consacrée au folk. Restons un instant sur le cas de John Baez, qui arriva sur scène, enceinte de 6 mois, et qui donna des nouvelles de son mari emprisonné à cause de son activisme politique. Son set se termina par « We shall overcome » et ce fut la fin de la première journée qui avait vu le festival devenir gratuit devant la multitude de jeunes venus de loin pour assister au festival. Et cela malgré le faible moyen personnel. John Baez, donc, d'origine mexicano-américaine, a donné une fin paisible au premier jour chaotique de Woodstock. Certains la considèrent comme l'équivalent féminin de Bob Dylan, et durant toute sa carrière, elle a fait preuve d'activisme en soutenant des causes telles que les mouvements anti-guerre, les droits de l'homme, les droits des gays et des lesbiennes, les droits civils et les causes environnementales. John Baez est surtout connu pour sa carrière qui s'étend sur plus de 50 ans à nos jours et comprend 30 albums avec des chansons enregistrées dans 8 langues. Elle est vénérée pour ses reprises de chansons de Bob Dylan, Woody Guthrie, Peter Seeger, les Rolling Stones, Stevie Wonder, les Beatles et tant d'autres. La représentation de Woodstock a eu lieu vers 1h du matin et comprenait un discours devant la foule sur la manière dont son mari avait été arrêté, ainsi qu'une représentation a cappella de la chanson « Swing Low Sweet Chariot » qui marqua fortement les esprits. Et j'ai choisi de vous passer une de ses chansons fétiches, « Joe Hill » qu'il chanta à Woodstock. Chanson écrite en hommage à ce syndicaliste exécuté en 1915 pour un meurtre qu'il n'avait probablement pas commis. « Has to go on the inside as well as the out. »
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. Smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. From San Diego up to
C'était Joe Hill par John Baez sur Oxy Web Radio, une des rares chansons que je vous passerai en live. Après la journée folk, voici le samedi 16 août avec le rock qui arrive. D'abord Kill, qui est un groupe local de rock, et le Keith Hardley Band, qui est un groupe de blues rock anglais. Et puis c'est Country Joe McDonald qui allait se charger de réveiller le demi-million de spectateurs. Il réveilla le public avec un phénoménal « I feel like I'm fixing to die » rag, chanson contre la guerre du Vietnam. Et derrière lui enchaîne Santana, qui n'a même pas encore sorti son premier album et qui va produire une prestation mémorable, avec notamment « Soul Sacrifice », morceau instrumental de 11 minutes. Santana passera dans le film, ce qui assoira la légende du groupe et lancera la carrière du guitar hero Carlos Santana. Légendaire avant même d'avoir sorti un disque, c'était impensable à l'époque, mais pas pour Bill Graham, le propriétaire du Fillmore West, qui s'occupait d'eux. Sans oublier le solo de batterie de Michael Shrieve, âgé seulement de 19 ans à l'époque. Mais malgré l'envie de passer Santana, j'ai choisi de vous passer Joseph Allen McDonald, surnommé Country Joe McDonald, qui fait partie du gotha de la musique américaine depuis Woodstock. McDonald était le chanteur du groupe rock country Joe and the Fish, et après le festival original de 1969, il est revenu à chacun des anniversaires du festival. Et Woodstock et Country Joe McDonald sont définitivement inséparables. McDonald est surtout connu pour Country Joe and the Fish, évidemment, qui a été l'un des piliers de la scène blues et country à la période pré-Woodstock. Le groupe est né à Berkeley en 1965 avec John McDonald et Barry Milton. Le groupe, qui travaillait dans le passé dans les cafés, a commencé à gagner en popularité et en estime pour finir par jouer à Woodstock. Très connu aux USA, il a peu percé en Europe. Au fond, il est surtout connu pour des thèmes tels que l'anti-guerre, les droits, les anciens combattants et le mouvement hippie de la côte ouest.
Just hope and pray that if they drop the bomb, yeah, they drop it on the Viet Cong. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee! We're all gonna die. Generals, let's move fast. Your big chances come at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is the one that's dead. And you know that peace can only be won when we've blown them all to kingdom come. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Well, come on, mothers throughout the land, won't you back your boys off to Vietnam? Come on, fathers, and don't hesitate. Hey, send your sons off before it's too late. You can be the first ones in your block to have your boy come home in a box. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die.
C'était « I feel like I'm fixing to die rag » par Country Joe McDonald and the Fish sur Oxy Web Radio. La nuit commence à tomber sur le deuxième jour de festival et les spectateurs se remettent de Soul Sacrifice quand arrive Canada, suivi de Mountain, un des meilleurs groupes de rock psychédélique aux fortes influences blues rock, voire hard rock de l'époque. Arrive ensuite Janis Joplin et son Cosmic Blues Band. En 1969, Janis Joplin est déjà une très grande star grâce à ses disques enregistrés avec le groupe de rock psychédélique Big Brother and the Holding Company. Elle est aussi au pire de sa dépendance à l'héroïne et sa performance en ressent un peu, et pourtant, quelle voix sur scène. J'ai choisi plutôt Kennedy pour Going Up the Country, qui est une chanson adaptée et enregistrée par le groupe de blues rock américain. Appelé hymne rural hippie, il est devenu l'un des plus grands succès du groupe et une des chansons les plus connues. Comme pour leur précédent single On the Road Again, la chanson a été adaptée d'un blues des années 20 et chantée dans un contre-style par Alan Wilson. Cannot Eat, groupe dont les membres étaient passionnés de blues, a fondé Going Up the Country à partir de la chanson Bulldoze Blues, enregistrée elle-même en 1928 par le bluesman texan Harry Thomas. Thomas était issu de la tradition des chanteurs blues et avait un son uniquement s'accompagnant parfois d'une sorte de flûte de pan, un instrument avant de l'époque afro-américaine. Il a enregistré Bulldoze Blues à Chicago en juin 28 pour Vocalion Records. Pour Going Up the Country, Harry Wilson a utilisé la mélodie de Thomas en gardant la flûte de pan et son rythme de base, mais l'a arrangé pour un arrangement rock et réécrit les paroles. C'était Going Up the Country, par Canadit, sur Oxy Web Radio. Grateful Dead, les rois des pochettes de disques psychédéliques et des improvisations interminables, font leur apparition, mais leur performance n'est pas terrible, notamment à cause de petits problèmes électriques. À chaque fois qu'ils touchaient leur guitare, les membres du groupe recevaient une décharge, ce qui n'est pas très pratique, surtout par rapport à la prestation qui allait suivre avec Creedence Clearwater Revival et qui ne figure pas dans le film, malheureusement, ce qui fait que cette prestation est très peu connue. Heureusement, par la suite, sur les cassettes VHS et maintenant sur les DVD, cette prestation est visible. Minuit est passé et on arrive à un très grand moment du festival avec la performance que je qualifie de dithyrambique de Sly and the Family Stone qui viennent de sortir leur album Stand qui fait un carton et sur lequel figure leur tube I Want to Take You Higher et c'est le morceau qui va suivre. À 4h du matin, les Who débarquent et vont jusqu'à 6 ou 7h du matin produire leurs 25 chansons, en fait tout l'opéra Rock Tommy y passe, ainsi que leur tube des débuts, avec notamment My Generation. Un mot sur le propriétaire du champ, Max Yasgur, dont la ferme, entre le 15 et le 18 août, fut le lieu le plus important de l'histoire de la musique, et le producteur laitier est devenu une sorte d'icône de la musique, et ça pour $50, mais aussi beaucoup de tracasseries avec son voisinage, qui subit beaucoup de dégâts. Sa propriété a également subi des dommages importants et moins d'un an après le festival, il a reçu un règlement de dédommagement de $50,000. Moins de deux ans après le festival, Max Yasgur vend sa ferme. Il mourut à l'âge de 53 ans en 1973, une crise cardiaque, et reçut une notice nécrologique d'une page d'un Rolling Stone. Max Yasgur est l'un des rares non-musiciens à recevoir un tel honneur. Après la mort de Max Yasgur, la ferme fut achetée par Alan Jerry et le Centre des Arts de Bethel Woods, qui fut créé. Un mémorial de Woodstock a également été créé sur le site pour rendre hommage au fermier et à son rôle dans l'histoire de la musique. Mais pour l'instant, voyez Sly and the Family Stone avec « I Want to Take You Higher ».
I'm
C'était I Want to Take You Higher par Sly and the Family Stone sur Roxy Web Radio. Et voilà le troisième jour, le dimanche 17 août, le soleil se lève, la plupart des gens dorment encore, et c'est là que le Jefferson Airplane débarque avec une graisse slick superbe. Le festival fut ensuite interrompu pendant de longues heures à cause d'une tempête monstrueuse qui dégrada les conditions de vie des spectateurs à un point inimaginable. Ils baignaient littéralement dans la boue avec peu de ravitaillement, peu de soins, des drogués partout qui faisaient des overdoses à tout va. Joe Cocker, au milieu de tout ce bazar, a fait un concert détonnant, avec une version étonnante et très réussie de With a Little Help from My Friends, des Beatles. Mais moi je vais vous proposer I Shall Be Released de Bob Dylan, autre monument que Joe avait mis dans son premier album. I Shall Be Released est une chanson de 1967 écrite par Bob Dylan, mais enregistrée en premier par le band, groupe qui l'accompagne alors en tournée. La chanson est influencée par la musique gospel, combinant des images de rédemption religieuse ou de libération du péché avec une libération implicite de la prison. David Yaffe la décrit comme une chanson sur les prisonniers rachetés, et le chanteur décrit la vie derrière un mur en réfléchissant sur chaque homme qu'il a mis ici et sur l'homme qui jure qu'il n'est pas à blâmer. Et puis il crie aussi qu'il était encadré par d'autres qui l'ont conduit à cette situation. Bref, il répète que n'importe quel jour maintenant, il sera libéré, et c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Let me dare love.
still be
C'était I Shall Be Released par Joe Cocker sur Roxy Web Radio. La pluie revient et pendant 4 heures, c'est un bazar monstre avant d'avoir arrivé Country Joe McDonald qui essaye de relancer le festival à 18h et qui lance en fait sur les rails 10 Years After avec leur leader Alvin Lee. Qui sortit un set complètement dingue, se terminant par le mythique I'm Going Home, grâce auquel il acquit la réputation de guitariste le plus rapide du monde. Derrière 10 Years After, on trouvera The Band qui est le groupe qui accompagne Bob Dylan, mais dont la performance n'a pas été retenue dans le film et donc ne tirera pas de gloire de cet événement. Ensuite, c'est Blood, Sweat and Tears qui apparaît sur scène vers minuit, suivi de Johnny Winter et son blues rock dévastateur pour l'époque. Bref, deux prestations, mais somme toute très courtes. Enfin, c'est Crosby, Stills, Nash et puis Young, mais qui lui a refusé d'être filmé. Aussi, l'histoire et la postérité ne retiendront que Crosby, Stills et Nash sur scène, qui apparaissent donc dans l'ordre. Et ils arrivent, il est un peu plus de 3 heures du matin, le groupe est tout récent et a déjà acquis malgré tout un énorme succès grâce à leur premier album sorti 3 mois et que je vous ai présenté il y a quelques semaines. L'expression « scared shitless » qui veut dire littéralement « qu'ils faisaient dans leur culotte » restera dans l'histoire. En effet, c'est ce que le groupe dira en se présentant devant le public à l'issue de sa première chanson. Tellement ils avaient de pression suite au fait qu'ils étaient récemment formés, qu'ils n'avaient eu jusque-là qu'une seule expérience sur scène. Bref, l'ensemble comprenait des performances acoustiques qui étaient en fait des chansons du premier album sorties avant que Neil Young ne les rejoigne, ce qui allait se faire finalement sur scène. Crosby, Stills, Nash & Young a ensuite enregistré la chanson Woodstock que je vous ai passée en extrait, chanson de Joni Mitchell. La chanson monta rapidement dans les charts, dirigée par la voix de Stephen Stills, et devint instantanément l'hymne le plus reconnaissable du festival de Woodstock. Mais avec mon esprit de contrariété, j'ai choisi de vous passer Sea of Madness, qui était justement une chanson de Neil Young et qui finalement n'a très peu reprise par la suite, ni dans aucun album à ma connaissance, hormis celui de Woodstock. Aussi, je voulais vous passer une des rares versions studio qui existent.
I'm
C'était Sea of Madness par Crosby, Stills, Nash & Young sur Oxy Web Radio. Et nous voilà à l'aube du quatrième jour, le lundi 18 août. À cause du retard accumulé, le festival se poursuivit une matinée de plus avec, pour commencer, au petit matin et avec un public réduit, il restait plus que 200 000 personnes, le Paul Butterfield Blues Band avec un certain Mike Bloomfield à la guitare se présente sur scène. Ce groupe ne fut pas retenu non plus dans le film, et c'est bien dommage parce que finalement, c'était l'une des rares occasions qu'on aurait pu avoir de le connaître un petit peu partout en Europe, notamment. Et puis les spectateurs ont eu la surprise de voir débarquer le groupe The Revival Rock'n'Roll, Shanana. Le groupe, même s'il reçut une ovation à la fin de son show, était un peu anachronique par rapport aux autres prestations. Pour en venir à Paul Butterfield, qui est né en décembre 1942 à Chicago et qui est décédé d'une overdose en mai 1987 à Los Angeles, voilà un bluesman américain, comme je les aime. Paul Butterfield est né et a grandi à Chicago. Jeune, il s'intéresse très tôt à la musique et suit des cours de flûte classique. C'est pas banal. Rapidement, avec son ami Nick Gravenatz, il s'intéresse au blues et fréquente dès l'âge de 15 ans les clubs de blues. À cette époque, il abandonne la flûte, pour se consacrer à la guitare et surtout à l'harmonica. Au début des années 60, à l'école, il rencontre un passionné de blues, Elvin Bishop. Ils se mettent à jouer ensemble et Paul Butterfield abandonne dès lors la guitare qu'il laisse à Elvin Bishop, plus doué que lui. Et il se consacre alors au chant et à l'harmonica. En 1963, il forme avec la section rythmique de Howlin' Wolf, rien que ça, Jerome Arnold à la basse et Sam Lay à la batterie, le premier groupe multiracial des États-Unis. Le Paul Butterfield Blues Band est né. Et ce groupe voit donc le jour en 1963 et dès 1964, le producteur Paul Rothschild les fait signer chez Elektra Records et les convainc de s'associer avec un second guitariste assez prometteur, Mike Bloomfield. Pour moi, c'est la meilleure formation qui connut ensuite beaucoup de changements de personnel. Le groupe est dissous en 1970 et je leur consacrerai une émission bientôt pour mieux apprécier leur talent. En attendant, écoutons Born Under the Bassin d'Albert King, chanson qu'ils avaient repris dans leur album et également à Woodstock. What?
I was born on a bad sign. I've been down since I began to crawl.
C'était Born Under a Bad Sign, interprété par The Paul Butterfield Blues Band sur Roxy Web Radio. Et puis, alors qu'il devait clôturer le festival dans la nuit de samedi, Jimi Hendrix arrive devant les 200 000 spectateurs restants qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Jimmy, qui est déjà une superstar, avec ses 3 albums studio sortis en environ 18 mois, a déjà derrière lui une réputation scénique à faire pâlir de grands groupes comme les Who. Mais il n'était pas encore une icône, et ce sera chose faite après ce festival, après la diffusion du film notamment, et ce peu de temps avant sa mort survenue l'année suivante en 1970. Ce n'est pas le Jimi Hendrix Experience qui va apparaître sur scène, mais la première mouture du Band of Gypsies, qui est le nouveau groupe de Jimi Hendrix. Le groupe ne se connaît pas bien, en tout cas musicalement, et la première partie du set est un peu brouillonne. Il est tôt, tout le monde est exténué, après avoir passé plusieurs nuits dans cette zone sinistrée qui est rapidement devenue le festival. Et Jimi Hendrix déclare « Vous pouvez partir si vous devez y aller, on fait juste une jam, c'est tout. Et si vous restez, ben vous pouvez applaudir. » Et tout d'un coup, arrive Voodoo Child, Slide Return. Les autres musiciens sont complètement largués. Même le bassiste, ami de longue date de Jimi Hendrix, Billy Cox, a du mal à suivre et Jimmy, dans ses fulgurances électriques, détonne complètement. Le public est déjà à genoux et Jimmy enchaîne avec sa reprise apocalyptique du Star Spangled Banner, l'hymne américain, avant d'enchaîner sur une version étonnante, pour pas dire extraordinaire, de Purple Haze. Et une improvisation scénique incroyable à chaque fois pour mettre tout le monde d'accord. Avec au passage la volonté de faire de ce set l'événement le plus marquant du festival. Les 2 heures de Woodstock en 1969 ont été les plus longues de la carrière de Jimi Hendrix. Au cours de cette période, sur scène, va développer son jeu qui le rendra très influent et fera finalement que son influence sera l'une des plus répandues de tous les temps. Et il est toujours considéré, 49 ans après sa mort, comme l'un des meilleurs guitaristes de l'histoire. Et Voodoo Child, vous vous souvenez ?
Down from the edge of my head.
C'était Voodoo Child par Jimi Hendrix avec son groupe le Band of Gypsies qui deviendra rapidement les Gypsy Sons and Rainbows sur Oxy Web Radio. Le festival de Woodstock restera longtemps le point culminant du mouvement hippie, qui perdra, lui, de sa force petit à petit, en partie à cause du désastre d'Altamont, qui aura vu un mort dans le public lors d'un concert des Rolling Stones, et de sa récupération commerciale. Bref, le mouvement hippie tomba peu à peu dans la banalité de l'anticonformisme des années 60. Pour la plupart des gens, le festival de Woodstock ne signifie plus grand-chose. C'était juste un rassemblement de jeunes, de hippies, avec de la musique de hippies, et puis un mec qui jouait de la guitare avec les dents. Pour d'autres, c'est l'occasion de sortir la sempiternelle phrase « j'aurais tant aimé y être ». Pour beaucoup, ce fut en fait une étape assez difficile à passer. Mais depuis, beaucoup d'évolutions et de genres musicaux divers ont évolué, tous plus riches et variés les uns que les autres. Finalement, le festival n'a pas été un déclencheur, mais simplement une étape, un passage obligé sûrement. Ce n'est déjà pas si mal d'ailleurs. La semaine prochaine, je vous parlerai de Tony Joe White et de son magnifique album des années 70 appelé Continued. Encore tous mes voeux. Et surtout, ben, roulez blues.